wars. The history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, place of tire. Off the scale, cold as a winter tail, tight as a drunk. Bonjour, nous sommes le mercredi 28 mars, il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Et ouais, avec ce soir des pétages de gueule dans les universités à droite et à gauche, ça bouge à la fac. Mireille Knoll, l'antisémitisme est un racisme comme les autres. Meurtre policier aux États-Unis et puis des sauts de cailloux. C'est toujours aux États-Unis et c'est pour se défendre contre les tireurs fous dans les écoles de Pennsylvanie.
Et puis on fera un point sur la distribution des repas à Calais. On fera un tour à Grenoble et on parlera de la mairie qui veut assainir le quartier de la Villeneuve.
Sabotage à Bure. Et puis nous aussi, on parlera de Norbert Zongo. Il n'y a pas que la méga combi qui fait ça.
Et ensuite, on finira ce formidable Canu Info par un agenda et qui comportera notamment un infotour des lentillères.
Bah, dis pas trop notamment, parce que c'est possible qu'il n'y ait que ça.
Et ben non, on rajoutera d'autres trucs peut-être. Okay. Bien, cool. Comme ça, on pourra justifier le notamment. Eh bien, on va commencer ces infos par faire un point sur l'université. Et on va parler de quoi? On va parler, alors comme ça, hop, je parle et comme ça je peux, voilà, hop. Et on va parler de l'agression de la fac de Montpellier. Juste une petite brève, hein, parce que vous en avez entendu parler, je rappelle très très brièvement les faits. La fac de Montpellier était occupée par des étudiants pour protester contre... plein de trucs, sûrement notamment la sélection à l'université et sûrement tout un tas d'autres choses. Voilà, la fac, il y a eu une descente un peu manu militari de gens cagoulés pour expulser les occupants et occupantes de la fac de droit. En tout cas, ça s'est passé dans la fac de droit. Genre, je sais pas si ça concernait que la fac de droit. Bref, voilà, descente un peu de gens qu'on pourrait qualifier de gens d'extrême droite. Hein. Et il semblerait, plus qu'il semblerait, on pourrait presque ne pas respecter la présomption d'innocence. En tout cas, le doyen était complètement mou. Et là-dedans, il s'en est quasiment pas défendu sur les chaînes d'info, tout ça. Voilà. Donc, il y a eu cette descente-là. A priori, le doyen a ouvert la porte. De là, il y a eu tout un tas de réactions, un immense soutien aux occupants et occupantes. En tout cas, le ministère de l'Éducation a dépêché sur place deux inspecteurs pour faire toute la lumière sur cette histoire. Ça c'est pour la partie administrative et ensuite c'est là où par exemple un peu breaking news aujourd'hui en fin d'après-midi c'est direction la garde à vue hein, pour Philippe Pétel qui est le doyen de la fac de droit et un prof qui s'appelle Coronel de Boissezon. Vous avez bien entendu le de hein, qui est prof d'histoire de droit et accessoirement également aussi militant contre le mariage pour tous et sympathisant de la Ligue du Midi qui n'est rien d'autre un peu que les identitaires du coin. Alors bon, on est content parce qu'entre Sarko la semaine dernière et ces deux petits cons de la noblesse hein, parce que quand même si vous voyez les vidéos de Philippe Pétel et la gueule de Coronel de Boissezon, et puis rien que son nom, voilà, vous imaginez à peu près de quel bord il est. Eh ben, ça fait toujours du bien, hein, qui croupissent dans les sombres cageots du commissariat. Alors, un suspense, savoir si eux aussi auront le privilège de rentrer chez eux au chaud ou comme Sarko, ou peut-être qu'ils vont finir par dormir dans des couvertures pourries.
Et les étudiantes s'opposent beaucoup au projet de loi là contre l'immigration et notamment sont en forte solidarité avec les personnes migrantes. Et donc le jeudi dernier, le 22 mars à Grenoble, il y avait une Frontex qui faisait une rencontre, discussion, un séminaire, etc. Et du coup, il y a des étudiantes et personnels de la fac et des personnes militantes qui ont manifesté donc contre la présence des représentants de Frontex dans l'université, puisque Frontex construit les frontières et les dispositifs qui tue plein de personnes qui essayent de venir en Europe. Et la présidence de l'université ce jour-là a envoyé les forces de police pour réprimer donc ces rassemblements qui avaient lieu. Et résultat, ils y sont pas allés de main morte puisqu'il y a eu 5 blessés, 4 à l'hôpital, dont deux personnes qui ont été blessées gravement. Donc une intervention violente des flics. Les CRS ont matraqué sans sommation, comme souvent. Et ben s'il y avait pas de frontières, il n'y aurait pas de garde chiourne pour les surveiller, ni de structures comme Frontex, donc, ni de violence policière, puisqu'il y aurait plein de manifestations. Et sinon, bah, à Strasbourg, les flics ont également étudié et tabassé des étudiants le 22 mars. Parce que le 22 mars était aussi la grosse manifestation. Donc suite à la manifestation, le palais universitaire de Strasbourg a été occupé par, je crois, 200 étudiants et lycéens et aussi différentes personnes, j'imagine. Donc pour continuer à appuyer les revendications du mouvement social. Et donc le soir, vers 20h15, ils ont été évacués par les forces de l'ordre. Ils ont tenté de bloquer l'accès au palais des étudiants, mais ça n'a pas marché. Et ce qui n'a pas empêché qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, nous sommes le 28, mercredi 28, plus de 250 étudiantes se sont réunies en assemblée générale et occupent là un amphi. Et pour faire un topo général, cette dernière semaine, il y a eu à Lille, Paris, Toulouse, notamment en plus là de Grenoble-Strasbourg, que des CRS se sont attaqués à des étudiantes qui réagissaient contre le coup de force de l'université de Montpellier aussi. Mais et plusieurs étudiantes ont été agressées aussi lundi près de Lille 2. Par un groupe de militants d'extrême droite. Voilà pour le petit contexte étudiant actuel. Il y a des gens qui se bougent, il y a les flics et l'extrême droite qui s'en mêlent.
Mireille Knoll, vous en avez entendu parler depuis vendredi dernier. C'est cette vieille dame, 85 ans. Par ailleurs, juive et rescapée de la rafle du Veldiv, donc elle était plutôt gamine à l'époque. Mais en tout cas, voilà, survivante de la Shoah, elle a quand même terminé assassinée, non pas directement par les nazis de l'époque, mais en tout cas, elle s'est fait buter chez elle de 11 coups de couteau quand même. Il faut en vouloir pour donner 11 coups de couteau à une vieille dame. Le parquet vient de retenir le caractère antisémite du meurtre. Il semble vraiment que ça soit lié au fait qu'elle ait été juive. Et voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que plusieurs rassemblements sont organisés en France en sa mémoire. C'est des rassemblements qui sont organisés par le CRIF, la LICRA, l'UEJF, le Consistoire Régional, toutes sortes de gens qui ne sont pas forcément complètement nos amis, qui sont beaucoup des gens qui considèrent que dès qu'on dit du mal de l'État d'Israël, c'est directement de l'antisémitisme, etc. Pourtant, certaines personnes qui signent un communiqué sur Rebellion, qui le signent des antifascistes autonomes, alors voilà, appellent à aller au rassemblement aujourd'hui à Lyon. Alors bon, nous on le signale, mais c'est trop tard parce que c'était aujourd'hui, c'était à 18h30. Mais en tout cas, ils appellent à y aller en disant que. Que si l'organisation de cette marche, qui est donc faite par le CRIF, la LICRA, l'UEJF, le Consistoire Régional, est appelée à être rejointe par l'ensemble des partis politiques, à part le FN et a priori et aussi la France Insoumise, si cette organisation peut en rebuter certaines, en tout cas des lecteurs lectrices de Rébellion, nous devons de ne pas abandonner la lutte contre l'antisémitisme à ces organisations qui se frottent les mains de notre absence. Notre indignation ne doit pas être à géométrie variable. L'antisémitisme n'est pas que l'histoire des juifs et des juives, et la lutte contre l'antisémitisme doit réintégrer l'antiracisme politique. Abandonner la lutte contre l'antisémitisme sous prétexte que l'antisémitisme ne se structure pas comme un racisme d'État. Alors ça, il y a quand même des tonnes d'analyses à faire là-dessus, mais c'est sûr que l'État aborde l'antisémitisme de manière extrêmement différente de la manière dont il aborde le racisme anti-arabe ou l'islamophobie. Ceci dit, savoir dans quelle mesure l'État n'aurait aucun rôle dans l'antisémitisme contemporain des années 2010, ça reste quand même quelque chose qui est intéressant à creuser. Et pour ça, on peut assez facilement chercher sur Internet des textes passionnants d'un groupe qui s'appelle les Juifs Juifs Révolutionnaires et qui ont des analyses un peu pointues de l'antisémitisme de maintenant et de la manière dont l'État en réalité pousse des communautés les unes contre les autres en faisant des tonnes pour soutenir les Juifs et les Juives tout en enfonçant quand même régulièrement de plein de manières différentes et ultra crades et ultra en marquant bien la différence dans la manière de traiter les musulmans, les musulmanes et les arabes globalement, c'est-à-dire musulmans, musulmanes ou personnes qui peut être supposées musulmans, musulmanes. Comment est-ce que l'État, en faisant tout ça, monte les uns contre les autres et a complètement sa responsabilité dans l'antisémitisme ce qu'on pourrait appeler cet antisémitisme de banlieue, quoi, tout en sachant en plus à côté de ça il y a quand même des tas de choses, c'est que le vieil antisémitisme français traditionnel de Français de France d'extrême droite de gens qui par ailleurs n'aiment pas non plus les Arabes, cet antisémitisme là est encore extrêmement vivant et donc voilà, ces antifascistes autonomes ont appelé à rejoindre ce rassemblement en disant l'antisémitisme et l'islamophobie et tous les racismes tuent hier comme aujourd'hui, soyons nombreux, nombreuses et solidaires.
Eh bien, restons sur des questions racistes, puisqu'on va parler d'un meurtre policier aux États-Unis. Il y a deux flics de Sacramento qui ont tué un Afro-Américain de 20 coups de feu dans la nuit du dimanche 18 mars. Et il a été assassiné devant son domicile. Donc, les flics ont confondu le smartphone de l'homme avec une arme, ce qui aurait justifié les 20 coups de feu lancés. Ce père de deux enfants, donc âgé de 22 ans, était suspecté d'avoir brisé des vitres de voiture. Il avait été pris en chasse et a été abattu donc dans son jardin du logement qu'il partage avec ses grands-parents et certains de ses frères et sœurs. Un smartphone, 20 balles de tirer, confondre un iPhone et un Six Hour, c'est hallucinant. Les deux policiers impliqués ont été suspendus, mais ils conservent leur salaire. Donc, bien sûr, on voit dans cet énoncé de fait que je vous ai fait, c'est une injustice raciale, une de plus. Les forces de l'ordre agissent de façon différente en fonction de la couleur de la peau des suspects aux États-Unis, mais en France aussi. À partir du jeudi 22 mars, s'en est suivie une semaine de manifs, d'actions, de désobéissance civile, organisées notamment par le mouvement Black Lives Matter. Ils sont même allés manifester pendant une grande compétition de basket à Sacramento, obligeant les supporters et les équipes à réagir.
Les États-Unis, un pays quand même un peu dingue dans son rapport avec les armes, comme on vient de le voir là, comme on le voit de plein de manières différentes, c'est quand même un pays où une manière de se suicider qui est comme relativement courante, en tout cas assez courante pour avoir un nom, c'est le suicide by cop. Alors ça marche particulièrement si on est noir, mais en tout cas aller devant des flics et d'une manière ou d'une autre leur faire un geste comme pour saisir un flingue ou avoir un flingue en plastique ou quoi, c'est une manière de se suicider. C'est aussi donc ce pays où les armes à feu circulent assez facilement pour que des collégiens, des lycéens puissent assez facilement en avoir et puis aller dans leur bahut et tirer sur tout le monde. Alors voilà, j'ai cette petite info d'aujourd'hui qui permet quand même beaucoup de rappeler ça, de rappeler tout ce contexte, et autrement on sait pas bien quoi en penser, c'est peut-être pas débile, c'est peut-être débile, on sait pas. En tout cas, les écoles américaines multiplient les initiatives pour tenter de lutter contre les fusillades en milieu scolaire. Et en Pennsylvanie, par exemple, dans le district, c'est un bled de Cambrousse, de Blue Mountain, y a une décision qui est d'armer les élèves et les enseignants avec des gadins, des cailloux, des pierres. David Helsel, le directeur de ce district dans lequel il y a 2700 élèves, estime qu'en dernier recours, jeter des cailloux sur un assaillant pourrait s'avérer plus efficace que de se cacher en silence. Si une personne armée, dit-il, tente d'entrer dans une de nos classes, il fera face à des étudiants armés de pierres qui pourront les lancer sur lui. Beaucoup de nos élèves ont un bon bras et peuvent lancer une pierre très rapidement. Donc voilà, on imagine... L'autre, là, avec ses 32 flingues nanin qui marche dans les couloirs, qui ouvre des salles de classe, et là, paf, il se prend une volée de cailloux dans la gueule. Ma foi, pourquoi pas ? C'est toujours moins débile que cette autre idée lancée par Donald Trump. Mais par ailleurs...
En général, on peut préciser qu'en général, les autres idées qui ne sont pas celles de Donald Trump sont toujours moins débiles. Ou en
oui,
tout cas, il faut faire beaucoup d'efforts.
De toute façon. Mais alors voilà, c'est pas que lancé par Donald Trump, parce que ça marche déjà dans le Texas. C'est que les enseignants... ont le droit de venir en classe avec des guns. Donc voilà, t'es en classe, t'es élève, ton prof en face de toi, il a un flingue pour le cas où quelqu'un à un moment pèterait un plomb et se mettrait à tirailler, voire pour le cas où l'enseignement lui-même pèterait un plomb et en aurait marre des bavardages.
C'est ça, parce que...
On voit pas pourquoi les enseignants seraient forcément plus sains d'esprit que les élèves.
Exactement.
Donc voilà, saut de cailloux caché dans les placards, pierre en dernier recours, dit-on bien. Et aussi, ailleurs, mais je suis en train d'essayer de retrouver où, les établissements scolaires multiplient les nouvelles mesures de sécurité. Les élèves du district de Parkland, par exemple, doivent désormais venir en cours avec des sacs à dos transparents. Ce qui permet de toujours voir s'ils n'ont pas de flingue dedans. Sacs à dos transparents fournis par l'administration. Dans d'autres écoles, les sacs à dos sont purement et simplement interdits. Voilà, c'est là qu'on en est aux États-Unis. Pas du tout, du tout, du tout à envisager d'interdire les ventes d'armes.
Surtout pas. Et retour en France et on va faire un point du côté de Calais. Alors pour rappel, Colomb avait débarqué au lendemain d'une baston entre migrants sur un lieu de distribution de repas. Et il s'était offusqué de sa place de ministre, sénateur, maire et malheureusement toujours vivant, que les pauvres ne savent pas se tenir face à la misère. Alors en guise de représailles, il a décrété que dorénavant la gestion des repas, c'est l'État qui allait s'en charger. Alors, on en avait parlé plusieurs fois, après des débuts plus que minables, les premiers jours, deux migrants sont venus. Dorénavant, c'est presque une centaine de migrants qui vient au point de distribution de repas pour que les migrants se acceptent un peu tacitement de venir. Il aura fallu que des associations disent peut-être que en enlevant des barbelés, des flics et des journalistes, ça allait peut-être un peu plus les aider à pouvoir venir. Mais bon, pas sûr que ces chiffres augmentent, car l'association L'Auberge des Migrants, qui assurait la distribution de repas avant que l'État annonce qu'il allait le faire, puis qui a arrêté, puis qui du coup continue parce qu'il y a quand même de gros manquements dans le dispositif de l'État. Donc cet assaut a fait remonter l'info, pardon, que ces salauds de flics, pendant que les migrants allaient se remplir le bide avec des barquettes de bouffe sous vide dégueulasse, eh bien, qu'est-ce qu'ils en profitaient pour faire quoi ? Eh bien, pour expulser les campements, tout simplement. François Guénoc témoigne, je cite, oui, ils ont retiré la présence policière, ils ont augmenté les points de distribution, ils ont fait des efforts, mais dans le même temps, ils démantèlent les campements aux heures des repas, alors qu'ils avaient promis de ne pas le faire. Selon l'association, les forces de l'ordre ont détruit des abris la semaine dernière dans le camp des Verrotières, où logent des centaines de personnes. Là, je continue de citer un autre bénévole. Les migrants étaient partis chercher leur petit déjeuner. Quand ils sont revenus, leur tente et effets personnels avaient disparu. Et là, c'est un autre bénévole de l'Auberge des Migrants qui parle. L'association qui affirme que plusieurs de ses membres ont été convoqués au commissariat lundi 26 mars. Convocation des forces de l'ordre, hein, pour leur interdire de redistribuer les tentes aux exilés que les forces de l'ordre avaient donc confisqués. Hein. Donc, là, ça donne un peu la preuve, hein, pour s'il en avait besoin. Qu'effectivement, du coup, les flics font bien ça et en plus interdisent les associations de refiler une tente à des gens qui vivent dehors. Donc, c'est bien, c'est qu'à Calais, quand même, on est toujours à peu près au début des trucs les pires qui sont même pas venus dans le crâne des pires crapules qui entourent cette planète. Mais non, bien sûr, il y en a qui. Voilà. L'association qui affirme que plusieurs de ses membres. Pour l'heure, l'auberge des migrants, elle continue les distributions de repas sur des horaires différents de ceux de la vie active. La vie active, c'est l'association qui a été mandatée et qui a accepté, hein, donc d'être mandatée par l'État pour distribuer ses repas. Donc elle dit, nous ne sommes pas là pour leur faire concurrence. Mais nous devons nourrir ceux qui ont trop peur de se rendre à leur distribution. Et quand même, le chiffre fait quand même preuve de l'incompétence de l'État, en tout cas du fait que les migrants ne leur font pas confiance, et de fait, ils ont raison. L'auberge des migrants distribue de son côté des repas à près de 500 migrants. Le chiffre que je citais au début, c'était 100 pour le dispositif mis en place par l'État.
À la Villeneuve, un quartier de Grenoble, la ville donc veut assainir le quartier en détruisant le 20 galeries de l'Arlequin, qui sont deux des immeubles appartenant à ce quartier. Et il y a des collectifs qui se bougent contre la démolition imposée et qui a choisi de participer au dispositif municipal grenoblois de pétition pour se faire entendre auprès de la mairie concernant leur combat. Parce qu'il faut dire que du coup il y a pas mal de gens qui luttent depuis un moment pour faire en sorte que ces immeubles ne soient pas démolis. Et là, bah, c'est une tentative avec cette pétition, c'est pas pour dire ils deviennent...
Est-ce que vous faites un tout petit point en une minute de l'histoire de ce quartier, qui est un quartier vraiment hyper spécial, même juste à quoi il ressemble? Parce que c'est un quartier qui a été construit dans les années... je dirais 60-70, qui était une sorte de quartier extrêmement novateur, pensé en amont par des architectes de gauche, progressistes, etc. Et entre autres pour une sorte de mixité sociale où ça allait pouvoir être des gens qui n'avaient vraiment pas beaucoup de thunes, mélangés à des gens qui avaient plus de thunes mais qui étaient contents d'habiter aussi avec des plus pauvres. Et c'est un quartier qui a une architecture un petit peu dingue, avec plein de passerelles à droite, à gauche, pour aller d'un endroit à un autre, on passe dans des tonnes de passages. Si vous y allez une fois voir quelqu'un et que vous voulez y retourner après et que vous n'êtes pas habitué, vous ne retrouvez jamais votre chemin, quoi. Sauf que ce qui s'est passé après, dans la suite et dans les 10-20 dernières années, c'est par contre qu'il n'y a plus que des pauvres, très pauvres, qui habitent dedans, et du coup c'est devenu aussi un quartier un peu dégueu. Les immeubles sont plus du tout rénovés, c'est un peu crados aussi.
Et ben ça dépend, parce qu'en fait sur les immeubles il y en a qui veulent rénover, donc ils vont investir de l'argent, et d'autres qui sont dans un état pas du tout insalubre, qui veulent détruire. C'est une manière effectivement de casser le quartier, en fait, c'est de casser les gens qui se connaissent, casser les liens de solidarité, et pas que de solidarité, mais les liens entre les personnes, déplacer des familles, c'est faire en sorte que des gens plus riches viennent s'installer, puisque si les immeubles sont rénovés, bah, ils pourront augmenter les loyers et faire que donc ce quartier très pauvre devienne un quartier plus mixte socialement, etc. Donc il y a énormément d'enjeux à la Villeneuve. Et donc le collectif propose d'aller signer la pétition. Donc n'hésitez pas à parler à des gens que vous connaissez qui habitent à Grenoble, d'aller signer cette pétition, puisqu'ils doivent ramener 2000 signatures pour pouvoir être entendu par la mairie, et il faut que ça soit des personnes grenobloises qui signent. Je veux dire, ça marcherait pas là en tant que Lyonnais, Lyonnaise de signer. Donc n'hésitez pas à en parler aux gens que vous connaissez. Donc je cite là le collectif pour redire comment est concernée cette démolition. Donc c'est contre la volonté des locataires qui refusent de quitter leur logement à bas loyer et de bonne qualité et en bon état, le départ imposé aux locataires du quartier vers des logements plus chers ou plus loin vers la périphérie, la perte d'au moins 80, peut-être 190 logements HLM à très bas loyer. Rappel, Grenoble est une des 25% de logements sociaux imposés par la loi, est en deçà, pardon, des 25% de logements sociaux imposés par la loi. Et aussi, il faut dire que dans les HLM, il y a différentes catégories de loyers, et il y a des très bas loyers et des loyers un peu plus chers. Un non-sens économique, une réhabilitation promise depuis des lustres aux locataires coûterait moins cher qu'une démolition. Un bon coût financier pour le bailleur SCIC Habitat, filiale SNI Caisse des dépôts, qui va se débarrasser gratuitement de locataires pauvres pour construire en étant subventionné des logements sociaux à loyer élevé. Une farce démocratique, la concertation n'a jamais permis aux habitants de la Villeneuve de se positionner pour ou contre la démolition du 20 galeries de l'Arlequin. Voilà, voilà, donc c'est sur grenoble.fr que vous pouvez aller signer cette pétition. La Villeneuve appartient à celles et ceux qui l'habitent, pas à celles et ceux qui l'achètent.
Alors, il semblerait qu'à Bure, on a plus à perdre qu'à gagner à collaborer avec l'ANDRA. Alors, l'ANDRA, on le rappelle, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs qui gère donc le projet d'enfouissement des déchets à Bure. Le siège social de l'association naturaliste, entre guillemets, IRUS, s'est fait taguer pendant la nuit. Tag, je cite, Cigéo Bure collabo du désert nucléaire et simplement, et mais efficace, collabo. Bon, alors, il y a bien moyen que le coup de pression mis sur IRUS fonctionne, en tout cas, on l'espère, puisqu'en regardant les photos qu'on peut voir sur manifest.info, qui est un peu l'équivalent de rebellion.info pour la partie est de la France, donc en regardant les photos, il semblerait que le siège social de l'asso, comme pour beaucoup d'associations, eh bien, soit une maison d'habitation, a priori, donc qui est des fois rapportée d'une personne de l'association. Donc ça pourrait peut-être un peu jouer sur le fait que cette personne ne s'en sente plus très bien chez elle. Alors, pour les mêmes motifs, deux véhicules du bureau d'études Neomis se sont fait graffer des mêmes termes, hein, collabo, puisque eux aussi participent au projet Cigéo, même s'ils sont bref, ils ont répondu à l'appel à projet de l'ANDRA et sont payés par cette agence. Voilà, donc ces deux IRUS, ces deux associations, enfin en tout cas l'association IRUS, hein, qui se dit naturaliste et défenseuse de l'environnement, et ce bureau d'études Neomis qui met un point d'honneur à défendre l'environnement, voilà, reçoit donc des sous de l'ANDRA. Et voilà, en tout cas, c'est les personnes qui ont fait ça, en tout cas, ont adressé une lettre à ces deux collabos qui s'adressent de manière quand même plus globale aux vautours qui voudraient un peu se faire un peu d'argent sur le nucléaire. Alors je vais citer quelques phrases, hein. Il les prévient. Il paraît que vous vouez votre vie à la préservation de la biodiversité et à faire connaître les merveilles de l'environnement. Parce que c'est sous couvert que du coup ces deux associations agissent. Comment peut-on rester, je cite, neutre face à l'arrivée prochaine de 80 000 mètres cubes de déchets nucléaires mortels sur des milliers d'années? Comment peut-on rester neutre face au défrichement illégal déjà effectué au Bois-le-Juc et face à la destruction programmée de 160 hectares de ce même bois dans les mois à venir. Il n'aura donc fallu que quelques milliers d'euros pour acheter votre silence et votre aveuglement sur cet immense projet de poubelle atomique. Et même si vous avez assez de bon sens pour démontrer l'impact catastrophique de ce projet sur l'écosystème, êtes-vous suffisamment naïf pour croire que le rouleau compresseur nucléocrate le prendra en compte? Votre collaboration avec l'ANDRA doit cesser immédiatement. Nous ne cherchons pas par cette lettre à vous convaincre de quoi que ce soit ou à établir un dialogue, car vous êtes déjà trop fourvoyé. Pour rappel, d'autres associations naturalistes ont refusé de collaborer avec l'ANDRA et n'ont pas coulé pour autant. Nous attendons donc de pied ferme votre retrait du projet CIGEO. S'il ne vient pas, nous le provoquerons. Nous ne souhaitons pas l'arrêt de toutes vos activités et initiatives pour l'environnement, mais s'il faut en passer par là pour neutraliser un maillon de cette immense chaîne radioactive qui s'impose par la brutalité, nous n'hésiterons pas. Signer la nature prête à se défendre. Donc, c'est pas mal quand même.
C'est pas mal.
Voilà. Et ce qu'il y a d'assez chouette dans cette lettre, c'est que vraiment ils font. Ils voient comment des associations qui, en tout cas, avant l'arrivée des gros projets comme ça, si ça se trouve, étaient des gens, je sais pas comment dire, là, respectables, ou en tout cas qui faisaient bien leur taf, et sous couvert de peut-être neutralité et peut-être un peu aussi d'appât du gain, parce qu'il y a de gros chiffres qui sont de grosses sommes qui sont en jeu pour des petites associations. Se font avoir ou en tout cas choisissent un camp plutôt qu'un autre et en tout cas le fait de choisir le camp du nucléaire, ça a quand même un sens, et sur des agences comme ça, sur des bureaucrates à ce point-là, on sait que quoi qu'il arrive, quoi que ces associations vont dire, même si elles font du mieux qu'elles peuvent leur travail, en fait, ils serviront de ça pour justifier une poubelle nucléaire. Leur but, ça, c'est vraiment pas de réfléchir pour savoir, enfin, en tout cas, de payer des gens pour savoir est-ce que effectivement c'est viable ou pas. Non, ils ont décidé que ça allait être viable et ils payent des associations pour cautionner ce truc-là. Donc cette lettre rappelle ça et mettre la pression directement auprès des gens qui participent à ça. C'est un moyen que peut-être il y en a d'autres qui le fassent pas, et ou en tout cas que les gens puissent se retirer ou quoi.
Ils ont décidé que ça allait être viable. Sans doute qu'ils ont décidé que ça serait assez viable jusqu'à ce qu'ils soient crevés. Ils ont décidé légalement que ça serait viable pendant 100 ans.
ce qui est quand même pas beaucoup.
Ce qui est comme minuscule par rapport à la durée de nocivité des déchets nucléaires. Alors oui, c'est des sortes de décisions, mais après voilà, ils l'ont décidé par décret. Savoir si les déchets nucléaires et si la manière dont la Terre peut bouger voudra respecter leur décret, ça reste quelque chose à voir.
Voilà, affaire à suivre. En tout cas, le ton est donné pour les prochaines associations qui voudraient éventuellement collaborer avec l'ANDRA. Your call, I'll do it as you like. You want to do about nothing, what you do is buy it. I'm too tired, I don't need to romance. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth.
François Compaoré va-t-il, oui ou non, être extradé? La cour de je sais pas quoi d'ailleurs. La cour d'appel de Paris doit se prononcer là-dessus aujourd'hui. En fait, a déjà dû se prononcer, malheureusement. Il se trouve que les médias français n'en ont rien à foutre et que les médias africains sont un peu moins réactifs pour filer l'info sur Internet. Donc, à l'heure qu'il est, je ne sais pas si François Compaoré va, oui ou non, être extradé.
Est-ce que sur cette antenne, tu peux nous faire un petit rappel de qui est François Compaoré?
Alors, je vais effectivement vous expliquer qui est François Compaoré. François Compaoré est d'abord et surtout le frère de Blaise Compaoré. Est-ce que c'est d'abord et surtout, je ne sais pas. Mais c'est entre autres le frère de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a été pendant extrêmement longtemps le président du Burkina Faso. Il a été président pendant 30 ans. Un des présidents quand même, un des champions de la planète. Il a été dégagé par la pression populaire, par une révolution, en octobre 2014. Alors, surtout François Compaoré, dans quelle mesure est-ce qu'il doit être... Donc, c'est le Burkina Faso qui demande l'extradition de François Compaoré. Et à propos de quelle affaire ? À propos de l'affaire Norbert Zongo. Alors, Norbert Zongo, j'imagine que pour pas mal de monde, ça évoque quelque chose. Pas forcément de manière extrêmement précise. Écoutez, c'est 19h37, j'ai le temps. On va revenir sur Norbert Zongo. Norbert Zongo était un journaliste au Burkina. Il faut savoir que le Burkina, c'est quand même dans les pays d'Afrique un pays assez exceptionnel pour sa vigueur en termes de liberté publique, de liberté syndicale, de liberté de la presse. Un pays qui a quand même bien marqué. Enfin, c'est un des pays, par exemple, depuis son indépendance, qui n'a jamais eu le régime du monopartisme, bien que tous les présidents, quand je dis tous les présidents, c'est même y compris Thomas Sankara, aient essayé d'imposer le monopartisme. Tous, ils se sont heurtés à une opinion publique qui n'a pas laissé faire.
Tu dis y compris Thomas Sankara, qui était un peu
qui était une sorte de
révolutionnaire, un peu
de Salvador Allende de l'Afrique. Voilà. Et donc au Burkina, il y a une presse qui est quand même une sacrée presse, avec une sacrée liberté de ton et une sacrée liberté de critiquer les gouvernants, et y compris de critiquer ce fameux Blaise Compaoré, qui lui a quand même vraiment pas mal été une sorte de dictateur, mais de dictateur qui, par rapport à d'autres dictateurs, a en réalité jamais complètement réussi à s'affranchir, c'est ça, de plein de choses. Il y a toujours le multipartisme, il y a toujours eu une presse critique, il y a toujours eu tout ça. Alors, dans ce cadre-là, il y avait un journal, dont je ne sais pas s'il existe encore pour le coup, qui s'appelait Sidoya, qui était vraiment, pour le coup, la voix du parti au pouvoir. Ce journal a eu, au début des années 90, un petit reporter qui signait Henri Segbo, dont le véritable nom était Norbert Zongo. Ce petit reporter a commencé à faire des enquêtes, ma foi, un peu poussées, un peu trop poussées pour le goût du pouvoir, et il a fini par se faire muter dans un bled du fond de la brousse. Mais là, il a plutôt refusé sa mutation, il a donné sa démission et il a créé son propre journal, L'Indépendant. Il est devenu le directeur de ce journal et il a affaire de cartes électorales multiples, des gens qui avaient plusieurs cartes électorales, pour la campagne présidentielle de 98. Paf, paf, article, enquête, etc. Trafic de parcelles, donc des histoires immobilières, qui éclaboussaient le parti au pouvoir. Tac, tac, Norbert Zongo, il était sur le coup. Et déjà à l'époque, dans les années 90, dénonciation de la modification de l'article 37 de la Constitution, qui était l'article qui limitait les mandats, qui limitait à deux le nombre de mandats présidentiels que pouvait faire une personne, et donc qui risquait d'empêcher Blaise Compaoré de se représenter. Tac, tac, des tonnes d'articles, d'éditos là-dessus. Norbert Zongo était là. Il se faisait une sorte de... il avait vraiment une sorte de... C'était un peu une sorte de héros à la 20e siècle, là, vous voyez, une sorte de héros qui avait une idée du bien, du mal, de ce que c'était que la presse, de ce que c'était le boulot de journaliste, et qui y allait, quoi. Et qui y allait sans écouter la prudence, sans écouter la pression, sans rien écouter, il y allait. En 1998... décède un bonhomme qui s'appelait David Ouédraogo. David Ouédraogo, c'était le chauffeur de François Compaoré. Et François Compaoré, donc le frère du président. David Ouédraogo, le chauffeur, figurez-vous qu'il avait été accusé d'avoir piqué des trucs à la femme de son patron, à Salah Compaoré, donc la femme de François Compaoré. Il a été accusé de ça, et puis il a été gardé dans les locaux du Conseil de l'Entente, qui est un truc gouvernemental, une caserne militaire. Il a été gardé, puis il est mort finalement le 18 janvier, des suites d'une maladie. Pour Norbert Zongo, il n'y avait aucun doute. David Ouédraogo n'était pas mort des suites d'une maladie. Il fallait mener l'enquête. Les éléments accumulés par Norbert Zongo se resserrent autour d'une piste. David Ouédraogo serait mort surtout des suites de tortures infligées par des éléments du régiment de sécurité présidentiel, qui était la garde rapprochée du président, mais du coup vraiment aux ordres directs du président et facilement du frère du président. Pendant à un moment où l'enquête avançait pas mal et donc se resserrait autour de la personne de François Compaoré, Norbert Zongo se fait buter. C'est le 13 décembre 98 et il est retrouvé avec trois autres personnes à côté d'une bagnole dans un bled qui s'appelle Sapui, qui est à une centaine de kilomètres de Ouaga. Trois corps calcinés à l'intérieur de la voiture, à l'extérieur un autre corps. Des douilles de calibre 12 posées l'une à côté de l'autre. Blaise Ilboudo, Abdoulaye Nikiema et les deux frères Ernest et Norbert Zongo sont morts. Au lendemain de l'assassinat de Norbert Zongo, des manifestations, et quand on dit manifestations au Burkina, ça veut dire des émeutes, dans tout le pays, des émeutes gigantesques. Ça a duré des semaines et des semaines. Par la suite, pendant des années et des années, le jour de l'anniversaire, le 13 décembre, émeutes, tous les ans, émeutes, pour ce truc de demander la vérité et la justice pour Norbert Zongo. C'est quand même depuis, ça a été considéré comme étant le premier truc qui a vraiment fait trembler le régime de François Compaoré. Bon, il a fallu encore que je calcule, il a fallu encore 18 ans pour qu'il 16 ans pour qu'il dégage, mais quand
de
même
Blaise Compaoré.
Cas, ça, Blaise Compaoré, ouais. Quand même, en tout cas, ça a été vraiment le début des grosses protestations populaires. Bon, pour calmer les esprits, le président accepte la mise en place d'une commission d'enquête indépendante en janvier 99. C'est-à-dire un mois après l'assassinat, quoi. La commission d'enquête bosse, ses conclusions sont claires. Deux points, ouvrez les guillemets. Norbert Zongo a été assassiné pour des motifs purement politiques parce qu'il pratiquait un journalisme engagé d'investigation. C'est ça qui est étonnant dans ce pays, c'est qu'on parle bien d'un pays où il y a un président qui a été président pendant 30 ans, un régime policier, un truc qui va buter des journalistes, qui va torturer un chauffeur parce qu'il aurait peut-être piqué un bracelet à la femme du nana. Mais dans ce régime-là, il y a une commission d'enquête indépendante, et ben elle est indépendante. Et du coup, elle balance des conclusions qui sont des vraies conclusions. À ce moment-là, quatre suspects sérieux sont désignés. Le soldat Christophe Combasséré, le soldat Ousseini Yaro, le sergent Edmond Kohama et l'adjudant Marcel Cafando du régiment de la sécurité présidentielle. Pour la commission d'enquête indépendante, comme pour une large partie de la population, une enquête judiciaire doit être ouverte. Bon alors quand même, là, ça traîne. Trois mois après, la justice finit par procéder à une inculpation, non pas trois comme le nombre de noms que la commission a donné, mais une seule, et alors certainement pas le frère du président, mais l'adjudant Marcel Cafando, pour assassinat, incendie volontaire. Le juge a relevé des incohérences dans l'emploi du temps de ce bonhomme. Le jour de l'assassinat de Norbert Zongo, plusieurs témoins sont entendus par le juge d'instruction, dont François Compaoré, mais ces témoins ne feront pas l'objet de poursuites. Reporters sans frontières, à ce moment-là, se dit quand même « Waouh, cool !» Et du coup, se félicite de l'inculpation, tout en président que, ouvrez les guillemets, l'adjudant Cafando ne peut avoir agi sans l'aval de ses supérieurs hiérarchiques. Avec cette inculpation, il est désormais impossible de tenir Blaise et François Compaoré à l'écart de l'enquête et du procès. Bon, ça va quand même être un petit peu possible. Et en 2006, Marcel Cafando bénéficie d'un non-lieu. Et alors voilà, à ce moment-là, l'affaire est enterrée. Elle court toujours, il y a des recours, des machins, mais en fait, il ne se passe rien, de rien, de rien. Tout ça, jusqu'en 2014. En 2014, où les protestations populaires, où les manifestations, où la pression de la rue fait qu'à un moment, Blaise Compaoré préfère s'enfuir, se barrer et laisser la place. Depuis, pendant à peu près un an, il y a eu une sorte de phase de transition, une sorte de petit coup d'État manqué de gens qui voulaient un peu réinstaurer le pouvoir de Blaise Compaoré, mais qui se sont fait dégager, leur coup d'État était vraiment très mal foutu. Et puis, depuis, ma foi, c'est une république comme beaucoup de républiques, quoi. C'est une démocratie. Les gens votent pour un président qui vient, qui est élu. Il n'y a pas plus que ça de. Enfin, il n'y a pas plus qu'ailleurs, plus qu'en France de fraude électorale ou quoi que ce soit. Une démocratie classique. Et du coup, une démocratie classique avec une justice qui, à ce moment-là, perd un peu de pression de ses épaules. Plus quand même, ou en tout cas, la nouvelle pression, c'est la pression populaire sur l'affaire Norbert Zongo. Parce que ce Norbert Zongo, il faut quand même vraiment comprendre, enfin je répète, mais que c'est un méga symbole pour le Burkina et plus largement pour une bonne partie de l'Afrique. C'est vraiment le symbole de, du journalisme honnête qui est persécuté par, par les gens au pouvoir. C'est vraiment le symbole de la d'une résistance à un pouvoir illégitime. Et donc, eh ben, la justice burkinabé se dit « Ouais, c'est vrai, il faudrait quand même l'entendre, ce François Compaoré, il faudrait voir s'il n'a pas quelque chose à voir là-dedans. » Et là, possiblement, il pourrait être inculpé. Et donc, la justice burkinabé demande à la France de renvoyer ce François Compaoré. Tiens, parce que où est-ce qu'il est, bizarrement? Eh ben, il est en France. Alors, la France, bon, ben, la France... d'un côté, elle aime bien les présidents africains, mais elle les aime quand même surtout quand ils sont au pouvoir. Alors là, c'est vrai que... En l'occurrence, Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir.
Mais est-ce qu'il risque de redire tout ? Est-ce qu'il risque d'y aller ?
Là, Blaise Compaoré, là, il risque plus tellement d'y retourner. Autant dire, il a perdu des points. Macron, quand il est allé, lui, au Burkina au mois d'octobre dernier, il a vraiment fait une sorte de discours sur hyper enthousiasmant pour plein de Burkinabés. Bon, au cours duquel il a peu abordé les vrais sujets de dépendance économique et de choses comme ça. Mais alors sur tous les sujets symboliques, il a lâché du lest.
Un peu comme avait fait Hollande, il me semble, un coup, qui avait décidé de mettre fin à la France-Afrique.
Oui, alors avec une petite différence où Hollande, comme Sarkozy avant lui, avait dit la France-Afrique, maintenant c'est fini, la France-Afrique c'est fini. Il avait vraiment rien dit de précis. Là, Macron, il avait quand même une sorte de langage qui était réellement un langage où il faisait comme parler d'égal à égal. Juste, il a abordé aucun des sujets clés. Des sujets qui tournent autour d'histoire économique, de dépendance, indépendance, et autour des histoires d'accords militaires, d'accords de défense, qui sont quand même les deux vrais sujets qui font peser le poids de la France-Afrique. À part ces sujets-là, Macron, il a dit « Ah non, mais la justice française, elle est complètement à votre service, pour tout, pour rouvrir l'affaire Sankara, pour machin, moi je suis d'accord. » Et du coup, François Compaoré, il n'y a pas de problème, on vous le lâche. Alors, l'observateur Palga, d'hier, se demandait ce que décideraient les juges français. Et il nous disait il rappelait ce discours de Macron. Le 28 novembre 2017, interrogé sur la question lors de sa visite à Ouagadougou, le président Macron disait en tout cas ne pas douter que la réponse à la demande burkinabé serait favorable. Pour autant, il faut se garder de se réjouir trop tôt, car on se demande si Jupiter n'avait pas en l'espèce perdu la tête, lui qui en réalité ne peut influencer le cours de la justice. Et oui, parce que c'est pas au président de la République en France de décider ce que les juges vont décider. Or, quand même, il y a une sorte de souci, c'est qu'a priori, la France extrade très peu, théoriquement, vers les pays qui ont encore la peine de mort. Le Burkina a la peine de mort dans son arsenal juridique, même si elle n'est plus jamais appliquée. Ça fait partie des raisons pour lesquelles, à l'heure qu'il est, on est incapable de vous dire quelles décisions auront pris les juges. Alors on va terminer sur une petite déclaration du COFANZO, qui est le comité français faire la lumière sur Norbert Longo. C'est le lieu de rappeler aux suppôts et aux porte-paroles officiels et officieux des criminels qui ont longtemps sévi pendant le règne mafieux de Blaise Compaoré que le peuple burkinabé n'a jamais réclamé et ne réclamera jamais une justice des vainqueurs. Les démocrates burkinabés et leurs amis, de par le monde, réclament tout simplement une justice juste, c'est-à-dire une justice dont les acteurs ne sont tenus par aucun deal visant à corrompre leurs libres investigations et leurs décisions claires et impartiales. What you do about nothing, all you do is buy it. I'm too tired, I don't need to advance. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter tail, tight. 19h51, et ben on dirait qu'on va terminer avec un tout petit peu d'avance, puisqu'il nous reste uniquement à vous parler de l'infotour des lentillères.
Les lentillères. La rubrique agenda.
Eh oui, c'est l'agenda. Ah, tout à fait, c'est l'agenda.
C'est important.
Bon, d'accord, c'est important, je vais commencer par dire le jour et l'heure. C'est vendredi 30 mars, c'est à 18h et c'est au Prieuré à Villeurbanne. L'infotour des Lentillères débarque. Les Lentillères, ce quartier à Dijon, dans lequel est prévu un éco-quartier. Mais pour l'instant, c'est pas du tout un éco-quartier, c'est un potager, un très vaste potager sur lequel habitent un certain nombre de gens. Des gens en partie issus de squats grenoblois, de squats alternaux grenoblois, en partie des gens issus de différentes migrations.
Grenoblois ou Dijonais ?
Pardon ?
Grenoblois ou Dijonais ?
Mais pourquoi est-ce que je dis grenoblois depuis
tout à l'heure ?
On parle bien de Dijon.
On parle de Dijon.
On parle complètement de Dijon.
Ah, heureusement qu'il y en a qui suivent.
Heureusement qu'il y en a qui suivent. Et donc, la menace de construction de l'écoquartier plane toujours sur les Lentillères à Dijon. Maintenant, je vais te dire Dijon plusieurs fois pour être sûr. Une grande tournée d'information est en cours. Plusieurs équipes se sont constituées pour aller rencontrer d'autres territoires et lieux en lutte et présenter ce qui nous anime ici aux Lentillères. Il s'agit aussi d'inviter à la grande semaine de résistance qui aura lieu du 19 au 29 avril. Le quartier libre des Lentillères est né à Dijon en 2010 pour contrer un projet d'éco-quartier béton. Fermes maraîchères, jardins, habitations, production de savoir autonome, vie pleine, le quartier incarne une forme d'opposition politique à la ville-entreprise. Au programme du 19 au 29 avril, là-bas sur place, à Dijon, des séminaires de discussion contre les urbanistes, des chantiers de fortification, des jeux, des concerts, des bonnes bouffes. Mardi 28 avril, Volt à vélo et diverses autres joyeusetés radicales. Si vous voulez pouvoir poser des questions directement des habitants des Lentillères, c'est donc vendredi après-demain à 18h au Prieuré à Villeurbanne.
Et donc, pour compléter cet agenda, jeudi 29 mars, aux alentours de midi, à midi même, se tiendra une réunion d'information sur les réformes de l'enseignement. Et ça se situe à Lyon 2, sur les quais. Pour plus d'informations, bien sûr, consultez l'agenda de rebellion.info. Et voilà, bah, ça parlera des attaques contre les étudiants. Et on espère aussi des suites à donner à ça. Et peut-être que ça pourra donner un peu de, je sais pas, de pêche aux étudiants pour lancer un mouvement.
Un vaste mouvement qui rejoindra le vaste mouvement de la SNCF, qui lui-même rejoint les vastes mouvements de fonctionnaires, de gens dans les EHPAD,
du personnel soignant, de tout ça. Et peut-être qu'un jour, eh ben, on finira par faire tomber Macron. Merci de nous avoir écoutés, bonne soirée.
Et dans 6 minutes, Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Ciao.